Gracilaria verrucosa est une algue rouge de l'étage infralittoral. Elle occupe des cuvettes ensablées dans lesquelles cohabitent des individus haploïdes, mâles et femelles, et des individus diploïdes. Peut-on prédire leur fréquence attendue dans une population? En général, pour étudier l'évolution de la fréquence d'un type d'individu dans une population, on doit tenir compte de la fertilité, F, nombre de descendants potentiels laissés par un individu, de la survie, S, proportion de descendants atteignant la maturité sexuelle. Chez Gracilaria verrucosa, deux catégories d'individus laissent des descendants. Les femelles haploïdes, représentées en bleu, et les individus diploïdes, ici en rouge. Ceci permet de définir une fertilité et une survie pour chaque niveau de ploïdie. Dans le cycle haplodiplophasique, les deux générations haploïdes et diploïdes sont issues l'une de l'autre. Le ploïdie ratio, rapport du nombre d'haploïdes en bleu au nombre de diploïdes en rouge, a une dynamique particulière, car plus la fertilité d'une génération augmente, plus la fréquence des individus de l'autre génération est élevée. L'indice K représente la fertilité relative haploïde sur diploïde. À survie égale, quand la fertilité des haploïdes dépasse celle des diploïdes, K est supérieur à 1 et le nombre de diploïdes augmente. A l'inverse, si K est inférieur à 1, le nombre d'haploïdes augmente. Par ailleurs, on définit la survie relative, R, comme le rapport de la survie haploïde à la survie diploïde. À fertilité égale, quand R est supérieur à 1, le nombre d'haploïdes augmente. Inversement, lorsque R est inférieur à 1, le nombre de diploïdes augmente. Donc, pour prédire le ploïdie ratio, il faut prendre en compte simultanément ces deux paramètres à effets opposés. On établit ainsi une formule prévoyant la proportion P de diploïdes attendue dans une population à une génération donnée GI. La fertilité détermine le nombre d'individus apparus à la génération GI. Et la survie, le nombre d'individus de la génération précédente, GI-1, ayant survécu. Cette relation permet le calcul de la proportion de diploïdes à l'équilibre, valeur pour laquelle leur fréquence ne varie plus au cours du temps. Si on fixe des valeurs de fertilité et de survie, K égale 6 et R égale 0,5, qui avantagent fortement les diploïdes, leur fréquence oscille fortement lors des premières générations et atteint une valeur d'équilibre élevée de 0,71. Inversement, si on avantage les haploïdes, avec K égale 0,17 et R égale 2, la fréquence des diploïdes est faible et atteint à l'équilibre la valeur de 0,17. À l'aide de ce modèle théorique, on peut prévoir les proportions d'haploïdes et diploïdes attendues à l'équilibre, en fonction des fertilités et survies respectives. Dès lors, deux questions se posent. Quelles sont les proportions d'haploïdes et de diploïdes dans les populations naturelles? Les fertilités et survies mesurées rendent-elles compte de ces proportions? Pour tenter de répondre à ces questions, l'équipe de recherche s'est rendue sur les côtes de la mer du Nord, au cap Greenay, où les populations de gracilaires sont accessibles aux marées basses de vives eaux. Les deux populations qui ont été étudiées sont distantes de 25 mètres et sont situées à des niveaux bathymétriques différents, couvrant la distribution verticale de Gracilaria sur l'estran. La station la plus haute, dont l'eau est colorée ici par de la fluorescéine, située à 4 mètres au-dessus du niveau zéro des cartes marines, a une superficie d'environ 5 mètres carrés. La station la plus basse, à 1,30 m au-dessus de zéro, s'étend sur 50 mètres carrés. Des fils tendus entre des vis implantées dans la roche délimitent des rectangles de 50 cm sur 1 mètre. On superpose à ce réseau une grille de carrés d'observation de 10 cm de côté. Ce procédé permet d'établir le repérage des individus, puis leur cartographie. Une partie de la fronde est prélevée et les échantillons sont emballés en sacs numérotés. À la fin de la marée, on rassemble les sachets d'algues. On les ramène en conditions isothermes au laboratoire. Elles y subissent un examen à la loupe ou au microscope pour déterminer le sexe et la ploïdie. Les individus végétatifs sont mis en culture en vue d'une détermination ultérieure quand ils auront sexualisé. Un comptage chromosomique donne la ploïdie de ceux qui ne sexualisent pas. Le regroupement des observations réalisées chaque mois pendant 2 ans donne cette carte de synthèse, dans laquelle les haploïdes sont figurés en bleu et les diploïdes en rouge. Grâce au suivi, on montre que dans les deux populations, il y a autant d'haploïdes que de diploïdes, et autant de mâles que de femelles. Pour vérifier si les ploïdies ratios observés sont en accord avec les ploïdies ratios attendus, les fertilités et les survies ont été mesurées au laboratoire et sur le terrain à partir des individus de la population du Cap Griné. La fertilité haploïde est estimée en comptant les spores diploïdes produites par un gamétophyte femelle. Et la fertilité diploïde en comptant les spores haploïdes produites par un tétrasporophyte. Pour évaluer la survie au stade juvénile, des lames couvertes de spores haploïdes et diploïdes ont été ensemencées au laboratoire et transplantées dans cette population de gracilaires. Un an plus tard, on collectera les lames pour dénombrer les jeunes individus survivants. Enfin, un suivi de la population pendant 1 an permettra de calculer la survie adulte. La fertilité des haploïdes est nettement inférieure à celle des diploïdes, comme l'indique la valeur de K égale 59%. De même, la survie des haploïdes est 2 fois plus faible que celle des diploïdes, comme le montre la valeur de R. Cette différence dans la survie s'exprime essentiellement au stade juvénile. À partir de ces valeurs mesurées, on calcule la proportion attendue des diploïdes à l'équilibre. Les résultats indiquent un léger déficit en diploïdes, en rouge, par rapport aux haploïdes, en bleu. Néanmoins, la proportion attendue, 44%, ne diffère pas significativement de celle observée dans la population. Cette concordance montre que nos estimations semblent correctes et que la population a atteint l'équilibre. On arrive donc, dans ce cas, à expliquer pourquoi les haploïdes et les diploïdes sont observés en proportion égale. Mais en est-il toujours ainsi ? Une trentaine de populations ont été étudiées selon une autre méthode d'échantillonnage des ploïdies ratios. les individus sont prélevés sur une bande d'un mètre de large. Ces relevés montrent que, dans plus de trois quarts des cas, le ploïdie ratio est égal à 1 pour 1. Dans les autres, il y a toujours excès de diploïdes. Comment expliquer que la déviation du ploïdie ratio se fait toujours en faveur des diploïdes? Trois hypothèses sont envisageables. Ou bien les fertilités et les survies relatives varient suivant les populations, ou encore on ne peut pas considérer les populations comme des systèmes fermés, ainsi que nous l'avons fait. Il existe en effet des échanges de spores entre populations, et si la dispersion des spores haploïdes et diploïdes est différente, le ploïdie ratio peut varier et les populations n'atteignent pas l'équilibre. Enfin, des observations de terrain et des recherches en laboratoire, réalisées sur le genre Gracilaria, ont montré l'existence de déviants du cycle qui résulteraient soit d'une plasticité, soit d'une variation génétique. Au Cap Griné, ces déviants sont toujours des tétrasporophytes. Et leur comportement peut être interprété de la façon suivante. Parfois, des tétraspores ne seraient pas libérés et se développeraient dans le tétrasporophyte pour donner des gamétophytes nains. Leur base est rétrécie, ce qui les différencie des ramifications. Ces gamétophytes mâles ou femelles sexualisent très rapidement. Dans ce cas, la génération haploïde individualisée disparaît. Ou encore, la tétraspore donnerait directement des organes mâles ou femelles. La phase haploïde se réduit ici aux seuls organes de reproduction. Enfin, le développement d'un tétrasporociste pourrait engendrer un tétrasporophyte nain. On assiste alors à une élimination totale de la phase haploïde. Bien que de tels déviants permettent d'expliquer les modifications du ploïdie ratio en faveur des diploïdes, leur existence pose de nouvelles questions. Ces variants sont-ils capables d'envahir les populations? Le cycle haplo-diplophasique peut-il évoluer vers un autre type de cycle? Ou pourquoi se maintient-il ?